France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Jérôme Laronce. En 2017, cet éleveur bovin de 37 ans est tué par un gendarme en Saône-et-Loire alors qu'il dénonçait depuis plusieurs années le harcèlement administratif dont il faisait les frais. Légitime défense justifie la gendarmerie, mais la réalité de l'enquête suggère d'autres vérités. Loin d'être un simple fait divers, la mort de Jérôme Laronce rappelle que la violence policière ne se limite pas aux frontières des villes. Elle interroge aussi la réponse de l'État face à l'épuisement et à la colère du monde agricole, alors que 9 ans après les faits, aucune justice n'a été rendue. Une affaire douloureuse, pas encore jugée donc, et si elle l'est un jour? Autrement dit, si le gendarme ne bénéficie pas d'un non-lieu, est-elle bien le combat des proches de la victime qu'il y ait un procès? Deux invités aujourd'hui, deux des sœurs de Jérôme Laronce, Marie-Pierre Laronce, avocate, et Marie-Noëlle Laronce, éleveuse de bovins et membre de la Confédération Paysanne en Saône-et-Loire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jeanne Mayer, rédaction chez Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Des collines ondulantes et des vallons verdoyants, des prairies que structurent de petits bois et des d'aubépines, de vastes champs ponctués de chênes à la ramure libre. C'est dans ces paysages bucoliques du bocage charolais en Saône-et-Loire que les Laronce élèvent des vaches depuis le 19e siècle sur les hauteurs du village de Trivy. Non pas les blanches du coin, non, les charolaises, mais de rousses limousines connues pour leur robustesse. Quand Jérôme rejoint son père en 2003, ses quatre grandes sœurs ont déjà quitté la ferme pour suivre leur propre voie. Lui, c'est un grand garçon blond de 23 ans, espiègle, curieux et altruiste. Il est pompier volontaire au village et il fait le choix de rester vivre sur les terres qu'ils ont vu grandir. À la ferme des Sedeau, les fils succèdent au père depuis 5 générations. Le jeune éleveur emprunte d'abord le chemin tout tracé que suivent généralement les agriculteurs. Investir, agrandir, emprunter, s'endetter. Car pour bénéficier des précieuses aides de la PAC, la politique agricole commune de l'Europe, les exploitations sont poussées au rendement et à la compétitivité. Donc il faut toujours plus de terres, toujours plus de bêtes. Alors que son père a commencé en 65 avec une 20aine de vaches, Jérôme en gère une 100aine lorsqu'il reprend la ferme, seul, en 2008. Et tout autant d'hectares. C'est énorme pour un seul homme. D'autant que le jeune éleveur décide rapidement de faire le pari du bio, avec les risques et les investissements que cela comporte. À rebours de la majorité des éleveurs bovins de la région, Jérôme rêve de sortir du système agricole classique. Oui, faire autrement, être autonome. Pour le bien de ses animaux, il fait le choix du plein air intégral, c'est-à-dire qu'il ne les rentre pas en hiver. Il s'émancipe des engrais chimiques, expérimente la vente directe et choisit des semences rares. Bref, dans le paysage charolais, Jérôme est un éleveur un peu à part, hors norme même. Mais en 2015, comme les autres, il est frappé par la crise qui frappe le secteur agricole. Nicolas Delouche et Jean-Louis Petit, éleveurs, eux, en Charente et en Vendée, en témoignent à la télé.
Aujourd'hui, je pense qu'on ne donne pas les moyens pour dans les 10 ans à venir arriver à conserver une agriculture correcte à taille humaine qui respecte l'environnement et qui soit vivable pour l'agriculteur. Aujourd'hui, moi j'arrête parce que dans 10 ans j'aurai plus ma place. Il y a une pression qui est due aux conditions atmosphériques, savoir si je vais pouvoir faire mon travail en temps et en heure à cause de l'eau, à cause de la sécheresse, à cause de tout ça. Avoir toutes les normes de qualité au top de façon à pouvoir éventuellement être dans les meilleurs prix, parce que si on n'y est pas, on ne gagne pas notre vie. Ensuite, vous avez une pression subventionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de déclarations à faire. Et plus ça va, plus on en a à faire. Les normes changent continuellement. Et donc, tout ça mis bout à bout fait qu'en fait, oui, effectivement, on est totalement sous pression en permanence.
Démission ! Démission ! Démission ! Démission ! Démission ! Démission !
Dans la France entière, agriculteurs et agricultrices multiplient les actions pour protester contre la concurrence européenne et les prix toujours plus bas qu'impose l'industrie. Dans leur fardeau pèse aussi l'instabilité des conditions climatiques, bien sûr, et l'impact aussi de l'embargo russe après l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis il y a les normes, l'administratif, la paperasse, toujours plus de paperasse. Car pour bénéficier des subventions, notamment celles de la PAC, les exploitants et exploitantes sont soumis à des contrôles chronophages. Un magma mouvant au gré des lois françaises et européennes, où s'enchevêtrent pièces justificatives, deadlines, règlements, clauses. En 2016, un rapport du Sénat parle d'overdose normative dans l'agriculture. Alors, au moindre grain de sable dans la machine à traire, au moindre bâton dans les roues du tracteur, c'est en effet toute une exploitation qui peut s'arrêter. Un document mal rempli, une panne informatique au mauvais moment, un lopin de terre oublié sur un cadastre, et voilà la pénalité, voire le blocage du troupeau. Dans les administrations chargées du contrôle des normes agricoles, l'humain est à la peine, étouffé sous les réformes qui se succèdent, les réductions d'effectifs et l'absence de formation. Alors que les agents jouaient autrefois le rôle de conseiller, leur rôle désormais se limite à un contrôle bureaucratique, parfois bien loin des réalités du terrain. C'est en 2014 que Jérôme Larron se heurte pour la première fois à ce système lors d'un contrôle de l'agence des services et de paiement, un machin administratif qui ne laisse rien passer. Ce jour-là, les agents remarquent que l'agriculteur de 34 ans n'a pas déclaré la naissance d'un lot de petits veaux qui portent cependant aux oreilles les boucles d'identification requises. Donc, juste un oubli, courant chez les éleveurs, notamment chez les petits exploitants qui travaillent seuls et manquent de temps pour la paperasse. Comme l'explique cet agriculteur au micro de Charlotte Perry, dans « Comme un bruit qui court » sur France Inter.
Ce mec-là, il était travailleur. Il se levait la nuit, Noël, le jour de l'an, pour faire naître ses veaux, pour faire téter ses veaux. C'était un producteur, il aimait son métier. Mais il était scandalisé, révolté, des contrôles. Ouais, t'as pas médaillé ton veau, il a plus de 8 jours, t'auras une pénalité. Oui, ta vache, là, elle a pas ceci, pas cela. Voilà, c'est tout comme ça. Les veaux, on doit les déclarer dans les 8 jours. Si vous êtes dans le 9e jour ou dans le 10e, vous êtes en pénalité.
Ça s'appelle la notification des animaux.
Voilà, notification. Ouais. Sortie et entrée. Donc la vache, elle fait le veau, vous avez 8 jours pour le déclarer. Vous vendez une bête, vous avez 8 jours pour le sortir. Vous êtes en plein foin, vous êtes en ceci, en cela, vous avez autre chose à faire. Donc on peut dépasser. Si vous dépassez le délai, paf, pénalité. Mais c'est pas des contrôles. On vient chez toi pour essayer de te piéger, c'est différent. Mais tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit de faire. Et le monde agricole, bah, ils acceptent ça. Il y en a les 3/4, c'est des moutons.
La réglementation dont parle cet agriculteur a été instaurée à l'échelle européenne après la crise de la vache folle en 1996. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. Il s'agit d'identifier administrativement un animal depuis sa naissance jusqu'à l'abattoir pour faciliter le suivi en cas de crise sanitaire. Une mesure a priori légitime, destinée à restaurer la confiance des consommateurs et des consommatrices. En réalité, c'est une stratégie politique qui favorise le lobby agroalimentaire sans empêcher les scandales, comme celui des lasagnes à la viande de cheval, en 2013. Et c'est notamment pour dénoncer cette réglementation au service des industriels que Jérôme Laronze adhère à la Confédération Paysanne en 2014. Face à la toute-puissante FNSEA, la CONF, comme on l'appelle, défend une agriculture à taille humaine, écologique et socialement juste contre la domination des grands exploitants et de l'industrie. Alors des normes, oui, mais si elles ont du sens. Jérôme Laronze, qui a le mot agile et les idées claires, est rapidement nommé co-porte-parole de son syndicat en Saône-et-Loire. Grand lecteur et amateur de théâtre, le jeune homme, de 30 ans à l'époque, sait parler autant que se faire écouter. Le journaliste Damien Valette, du journal de Saône-et-Loire, se souvient de lui dans « Sacrifice paysan », un documentaire de Gabriel Culan.
Il exprimait la position de la Confédération paysanne, puisque c'était le porte-parole, et donc il s'en prend à l'agro-industrie, l'hyper-concentration de la grande distribution. Il évoque les grandes centrales d'achat qui se partagent le marché. Il part d'Intermarché, Leclerc, Carrefour et Auchan. Pour lui, c'est un oligopole. Et face à ces géants, le petit paysan, il n'a aucun poids. Le constat que nous faisons, c'est celui d'une grande souffrance dans les exploitations. Les agriculteurs sont plutôt des taiseux.
Et souvent, ils retournent la violence contre eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a un ou deux suicides par jour dans notre profession. Mais peut-être que la violence va finir par se tourner vers les autres.
Mais l'étau administratif va se refermer encore un peu plus sur l'agriculteur en lutte. Après le contrôle de l'ASP en août 2014, c'est la direction départementale de la protection des populations qui prend la relève. La DDPP lui demande des tests ADN assez frais pour prouver la filiation des veaux qu'il n'a pas déclarés dans les délais requis. Jérôme Laronze refuse cette absurdité. Pourquoi devrait-il payer pour prouver que ces bêtes sont ses bêtes, alors que c'est lui qui les a fait naître sur ses propres terres ? Chaque courrier de l'administration est une petite humiliation que symbolise l'acronyme DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Comme si un agriculteur représentait une menace pour tous ces gens qu'il s'attelle à nourrir. En février 2015, la DDPP interdit tout mouvement du cheptel de Jérôme Laronze. Ce qui veut dire que l'éleveur ne peut plus vendre ses animaux, il n'a donc plus de rentrée d'argent, alors que son troupeau continue à s'agrandir à mesure que surviennent de nouvelles naissances. De plus en plus d'animaux, mais pas de ressources pour s'en occuper comme il le faudrait. C'est un véritable cercle vicieux qui se met en place. L'état du troupeau de Jérôme Laronze, piégé par un système dont il dénonce l'absurdité, commence à se dégrader. En avril 2016, rapporte le journal de Saône-et-Loire, il écope de 5 000 euros d'amende et de 3 mois de prison avec sursis après une plainte des services départementaux qui l'accusent de mauvais traitements sur ses bêtes, qui sont pourtant toute sa vie. Au fil des mois, la DDPP multiplie les contrôles, hors sol, illégaux, car ils se font dans un espace privé sans l'accord de Jérôme Laronze, ni autorisation judiciaire. Quand le pouvoir administratif se substitue au pouvoir légal, judiciaire en premier lieu, il y a de quoi se poser des questions sur notre état de droit. Toujours est-il que la colère de l'agriculteur grandit. Il est sous pression. Le 16 juillet 2016, après l'issue dramatique d'un contrôle abusif, il envoie un courrier au service vétérinaire. Et c'est sa sœur, Marie-Pierre Laronze, qui le lit comme dans un bruit qui court sur France Inter.
Je fais suite au contrôle réalisé sur mon exploitation les 6 et 22 juin 2016. On reprochait à Jérôme une opposition à contrôle parce qu'il n'avait pas intégralement rassemblé et contenu son cheptel dans un délai de 4 jours, ce qui ne permettait pas dans un délai si court le rassemblement et la contention de l'ensemble du cheptel, c'est-à-dire à peu près 120 bêtes. Je vous rappelle d'ailleurs que les conditions dans le contrôle s'est déroulées le 6 juin en présence de 8 gendarmes ont été particulièrement traumatisantes et indignes puisque la présence des forces de l'ordre, armes au poing, jusque dans les prés, a provoqué un affolement de mes animaux et que deux bêtes sont mortes ce même jour pendant les opérations de contrôle après s'être jetées dans un ravin. Jusqu'au contrôle du 22 juin dernier, chacune de vos interventions a conduit à une restriction de mes droits et revenus et un affaiblissement de mon exploitation, compromettant ainsi tout espoir d'amélioration de ma situation et volonté de reprise en main de celle-ci.
Lors de ce contrôle du 6 juin 2016, abusif et de surcroît illégal, les agents de la DDPP sont accompagnés de 8 gendarmes, dont 6 hommes en noir avec des pistolets mitrailleurs. 8 militaires pour un agriculteur en crise. Le déséquilibre est violent, la tension est à son comble. À la fin de la journée, Jérôme Laronze se retrouve seul. Seul et abasourdi par ce qui vient de se passer. Des bêtes sont mortes, oui, durant le contrôle qui n'est même pas terminé. Il reprend le 22 juin, cette fois en présence de la sœur de Jérôme, Marie-Pierre Laronze, avocate. Et comme par hasard, la procédure se clôt sans incident. Comme quoi ce sont plutôt les ronds de cuir qu'il faudrait contrôler. Dans les mois qui suivent, l'avocate aide son frère à négocier un compromis avec la DDPP. L'interdiction de mouvement est enfin levée. L'agriculteur devrait bientôt pouvoir reprendre le cours de son activité. Mais le chemin de croix administratif de Jérôme Laronze n'est pas terminé. Il manque encore des documents bloqués par un autre organisme, l'EDE, l'établissement départemental de l'élevage, censé accompagner les éleveurs dans leur démarche. Or, après avoir entrevu l'embellie, Jérôme Laronze replonge dans la colère et l'abattement. Il ne dort plus. Il empile les courriers sur son bureau comme autant de preuves du harcèlement administratif qu'il subit. À la Confédération paysanne, on le trouve différent, amer, sans savoir ce qui se trame dans le cœur de l'éleveur. Car Jérôme Laronze peine à dire ses angoisses. En guise de confession, il laisse une vache morte pourrir dans son pré et s'en explique avec ses mots. La campagne doit puer pour que la société bouge. Autour de lui, on le sait, si le troupeau va mal, c'est que l'homme va mal. Il est alors convoqué par son syndicat. Dans ces conditions, mieux vaut se recentrer sur sa ferme et renoncer à son poste de porte-parole. Mais Jérôme Laronze, les nerfs à vif, son combat chevillé au corps, n'entend pas se taire. Alors, avec l'énergie du désespoir, il rêve d'un procès contre la DDPP. Depuis sa ferme des Senaux, non loin de ses vaches et de Sirius, son cheval blanc, il écrit alors « Chronique et états d'âme ruraux », un long texte qui dénonce l'acharnement administratif, l'agriculture industrielle et les suicides d'agriculteurs. En voici un extrait.
Je pleurais aussi sur la trahison de ma propre colère. Celle que je ressentais aux funérailles de mes camarades d'école respectivement pendus et noyés. Ils étaient de ceux qui ne travaillent pas en priorité pour un salaire, mais pour l'amour du travail bien fait, du sillon droit, des animaux bien conformés, du lait propre et de la couleur des blés. Quitte trop souvent, et on doit le déplorer, à se laisser éblouir par l'agrochimie et autres douleurs, sources de douleurs. Si Élézard Bouffier n'a eu qu'une existence fictive sous la plume de Giono, ils existent encore, les travailleurs, les opiniâtres, les taiseux, les humbles, les enracinés qui œuvrent en communion avec leur territoire. Ces paysans, ces artisans, ces soignants, ces maires, ces curés, ces institutrices, ces facteurs, ces épiciers, qui sont assassinés quotidiennement dans un crime silencieux, mais très réel, lui.
Dans ses chroniques, Jérôme Laronze se confesse. Lui aussi, comme ses amis, a pensé à se suicider. C'était après la mort de ses vaches dans la rivière, lors de ce contrôle funeste de juin 2016. Il a même imaginé la scène. Une corde, un tabouret, un arbre, près de la maison bourgeoise de la contrôleuse de la DDPP chargée de son dossier. Un suicide symbolique, politique. Mais il a renoncé à son funeste projet pour continuer de résister, de dénoncer. Jusqu'à cet énième contrôle du 11 mai 2017, ce sera le dernier.
Souviens-tu du pays des oiseaux? Tu sais celui où il fait toujours beau. On dit qu'il n'existe plus, on dit qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes. À l'horizon, les rivières s'éloignent. Ils ont tué les oiseaux. Mais il est mort, il est froid. Du bout des doigts, je caresse la vase. Dieu qu'il était émouvant ce mirage. J'ai entendu la cri du vent et j'ai pleuré doucement.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Jérôme Laronze.
Affaires Sensibles.
Vous n'avez pas été en ligne faire une notification de naissance? Vous ne maîtrisez pas l'outil informatique?
Ah, vous inquiétez pas, je leur ai tous mis les boucles. Ils ont tous leur numéro. Donc on n'a qu'à les régulariser puisque vous êtes
mais
là.
Je peux pas. Là, c'est trop tard.
Fabrice Drouel.
Jeudi 11 mai 2017, 9h. Jérôme Laronze a repeint ses volets en bleu ciel, comme pour chasser les nuages qui planent sur la Saône-et-Loire. Et ce jour-là, alors qu'il vient de monter sur son tracteur pour aller nourrir ses bêtes, il voit arriver au Senot plus de 10 personnes, dont 3 agents de la direction départementale de la protection des populations, 6 gendarmes, le maire de son village et un employé municipal. L'agriculteur n'a pas été avisé de ce contrôle, mais il s'en doute. Après les 6 précédents, celui-ci doit aboutir à la confiscation de son troupeau pour abandon et mauvais traitement. De fait, depuis que la DDPP a immobilisé son cheptel 2 ans auparavant, Jérôme Laronze n'a plus les moyens de s'en occuper comme il le voudrait. Ce matin-là, à l'âge de 37 ans, il est seul. Et il n'a pas pu prévenir ni ses proches, ni son syndicat. Il est bouleversé. Au-delà de l'humiliation que représente une saisie pour un éleveur, il se prépare à la ruine, carrément. Tandis que les contrôleurs s'attellent à recenser ses bêtes avant de les lui retirer, 2 gendarmes tentent d'immobiliser le tracteur de Jérôme qui refuse d'en descendre. C'est pour lui le seul moyen de se faire entendre. Inquiet de la tournure que pourraient prendre les événements, l'éleveur laisse un message à une amie qui prend la décision d'appeler les pompiers pour tenter d'apaiser la situation. Jérôme les connaît bien, les pompiers. Il travaille avec eux comme volontaire. Alors, quand ils arrivent au Senot, il plaisante avec eux. Mais les rires s'arrêtent net quand le maire du village, après un rapide échange téléphonique avec un médecin, demande à ce que Jérôme Laronze soit interné en psychiatrie. Une mesure qu'il peut prendre, oui, via un arrêté provisoire d'hospitalisation. L'éleveur décide alors de s'enfuir en voiture. Il ne reviendra jamais. Le lendemain, l'un des gendarmes dépose plainte pour violence avec arme et refus d'obtempérer. Il accuse l'agriculteur de l'avoir attaqué avec son tracteur. Heureusement que le ridicule ne tue pas, lui. Un avis de recherche est lancé, mais Jérôme Laronze reste introuvable, malgré les moyens policiers déployés. Passif suicidaire, prévient le signalement. Conduite à tenir, éventuel placement en garde à vue, attention, personne dangereuse. Sa sœur, Marie-Pierre Laronze, décrit, elle, au contraire, un homme gentil, à la force tranquille, au micro de Charlotte Perry.
Dans la presse, il a été dit qu'il était violent, qu'il avait foncé sur les gendarmes avec un tracteur.
Alors, une chose est sûre, c'est que c'était absolument pas quelqu'un de violent. Et si vous interrogez ses proches, tout le monde vous dira que c'était au contraire quelqu'un de plutôt placide, extrêmement respectueux. C'est quelqu'un qui avait toujours à cœur d'offrir un café, même à ceux qui pouvaient être ses pires ennemis, c'est-à-dire les agents de l'administration. Après, le fait qu'il ait pu foncer sur les gendarmes avec son tracteur, il est intéressant de se rappeler qu'il a contacté le journal local avant son décès, pendant sa traque, et il a dit qu'il n'avait pas foncé sur les gendarmes, il avait tenté d'effaroucher les gendarmes qui voulaient l'appréhender. Donc on peut considérer peut-être que c'était aussi un moyen de défense, de se protéger. Je crois qu'il se sentait extrêmement en danger et qu'il y avait donc des raisons de se sentir en danger puisqu'il en est mort.
Après ce témoignage, Marie-Pierre Laronze constatera, en consultant le dossier judiciaire, que son frère n'a pas foncé sur les gendarmes avec son tracteur. Alors, pourquoi ces accusations ? Et pourquoi avoir fait venir la maréchaussée en ce 11 mai 2007, comme pour l'arrestation d'un dangereux criminel ? Pourquoi vouloir interpeller Jérôme Laronze après sa fuite, plutôt que de le convoquer au tribunal ? Est-ce en souvenir de cet agriculteur de Dordogne qui, en 2004, a tué au fusil 2 agents de contrôle avant de tenter de se suicider? Dans le cas de Jérôme Laronze, ce sont les gendarmes qui sont armés lors du contrôle, pas lui. Accusé par la police qui le recherche, l'éleveur cherche alors un moyen de s'exprimer sans se rendre. Ce sera la presse. Le 15 mai 2017, après 4 jours de cavale, ou plutôt de campagne, comme il choisit de la désigner, il contacte Damien Valette, du journal de Saône-et-Loire. Quelques jours après l'élection d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, l'agriculteur se fait lanceur d'alerte. Certes, il est victime d'un système, mais il est surtout un homme révolté, décidé à faire bouger les choses. Neuf jours passent sans que l'on sache où se trouve Jérôme Laronze. Le 11 mai 2017, avant de prendre la fuite, il avait écrit à une amie « Les terreurs de l'administration sont revenues. Ce soir, ils m'auront fusillé. » Une prémonition funeste, puisqu'il va trouver la mort le 20 mai 2017. Vers 16h30, une promeneuse signale sa voiture à la police dans le village de Sailly, à 25 km de sa ferme. Deux gendarmes se déplacent sur les lieux et le trouvent assoupi au volant. La suite, c'est la journaliste Fanny Barius qui la raconte sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté.
La cavale de l'agriculteur a pris fin tragiquement sur ce chemin de terre au-dessus du château de Sailly, à une trentaine de kilomètres de son exploitation. L'homme était recherché depuis 10 jours après sa fuite lors d'un contrôle vétérinaire sur la traçabilité de ses bêtes. Appelés sur les lieux, les gendarmes se sont trouvés nez à nez avec l'individu. Jérôme Laronze, 37 ans, a alors lancé son véhicule contre les gendarmes. Ils ont fait feu et ont touché mortellement le jeune agriculteur.
Centrale ici, Victor 13, on a repéré l'individu et dans son véhicule là. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je l'ai en visu là, qu'est-ce qu'on fait là?
Merde.
Attends, mais il a démarré là.
Une défense légitime. C'est la version, celle des gendarmes, donc. Que relaient d'abord les rares médias à se saisir de l'affaire? Si les deux gendarmes dépêchés sur les lieux font feu, seul l'un d'entre eux atteint Jérôme Laronze. L'agent tire 5 balles en 7 secondes, dont 3 touchent l'agriculteur à la cuisse et au poumon. La voiture est ensuite arrêtée par un arbre, quelques mètres plus loin, avant que la victime ne commence à se vider de son sang. Alors que la direction des deux gendarmes les rejoint sur les lieux, aucun geste de premier secours n'est effectué. Les pompiers, qui arrivent 25 minutes après les tirs, ne peuvent rien faire. Jérôme Laronze meurt de ses blessures et du harcèlement inhumain de fonctionnaires en uniforme comme en civil. Une information judiciaire est ouverte au tribunal de Chalon-sur-Saône et le gendarme responsable des tirs mortels est mis en examen en septembre 2017 pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'hypothèse de l'homicide intentionnel est immédiatement écartée. Comme la loi le prévoit, c'est l'inspection générale de la gendarmerie nationale, l'IGGN, qui auditionne les témoins, choisit les questions et rédige les procès-verbaux. Des gendarmes, donc, qui enquêtent sur un gendarme. Pourtant, rapidement, un autre récit s'impose. L'analyse de la vidéo d'un pistolet à impulsion électrique, de l'autopsie et de la balistique montre, je cite le rapport, que le gendarme se trouvait sur le côté du véhicule de M. Laronze, donc hors de sa trajectoire, lorsqu'il a fait usage de son arme et qu'il a continué à tirer alors que le véhicule s'éloignait. Les balles qui ont perforé les poumons de l'éleveur ont été tirées dans son dos. Lors de la reconstitution organisée en novembre 2017, en présence de la famille de la victime, le gendarme mis en examen rejoue la scène. Un tir de face, alors que la voiture lui fonce dessus, suivi de 4 autres, depuis le côté, alors qu'il s'écarte pour éviter le véhicule. Marie-Pierre Laronze, la sœur de Jérôme, réagit face aux caméras de France 3.
La remise en situation, selon leur version, effectivement, a été effectuée, mais ne nous a absolument pas convaincus. Elle n'est pas concordante aux expertises balistiques qui ont pu être effectuées. On a l'impression que l'IRGCN n'est pas allé au bout de ses constatations. Une difficulté à montrer les responsabilités. On a eu un peu cette impression derrière, finalement, une reconstitution, enfin, des éléments scientifiques, en disant que le caractère dynamique empêchait une totale précision. Néanmoins, il y a quand même une concordance évidente, matérielle, qui permet, de toute façon, d'affirmer que le gendarme n'a jamais été face au véhicule. Donc, il s'est jamais trouvé en situation de danger.
Ce que montre la balistique, c'est également que toutes les balles ont été tirées à hauteur d'homme. S'il voulait simplement stopper la course de Jérôme Laronze, pourquoi le gendarme n'a-t-il pas tiré dans les pneus de la voiture? Et pourquoi 5 tirs? Était-il à cran, échauffé par la prétendue dangerosité de l'éleveur? A-t-il eu dans un accès de peur ou de hargne l'intention de tuer? Alors que l'instruction se poursuit pour tenter de répondre à ces questions, les proches de l'éleveur cherchent eux aussi à comprendre. Tous les mois, un comité de soutien baptisé Justice et Vérité pour Jérôme Laronze se réunit en Saône-et-Loire pour réclamer une enquête juste et indépendante. Il s'agit également de mettre en avant la dimension politique de cette affaire. Si Jérôme est mort, c'est parce qu'il dénonçait le système avec trop d'ardeur, estiment ses proches. Et ils ne sont pas les seuls à voir en lui un symbole. Dans les semaines qui suivent sa mort, la Confédération paysanne reçoit des appels de soutien de tout le pays. Ils sont tellement nombreux à se reconnaître dans la situation de l'agriculteur, dans les contrôles, dans les normes qui écrasent. Deux ans après la mort de l'éleveur bovin, sa famille obtient que l'enquête soit élargie à deux aspects. D'abord, la possible altération de la scène du crime après les faits. La famille et son avocat, Maître Chauviret, questionnent notamment l'absence de procès-verbal des premières constatations, la perte de plusieurs douilles et l'arrivée très rapide du supérieur des deux gendarmes sur les lieux, celui-là même qui avait porté plainte contre Jérôme Laronce quelques jours auparavant. On ne peut pas se faire justice soi-même. Ce gendarme, en tant que victime, aurait dû lever le pied, souligne Maître Chauviret auprès du média reporter. Par ailleurs, la justice a également élargi l'enquête à la question de la non-assistance à personne en danger. La sœur de Jérôme Laronce, Marie-Pierre Laronce, s'interroge sur François Bourgogne-Franche-Comté.
Pourquoi pendant une demi-heure jusqu'à l'intervention des pompiers, Jérôme n'aura aucun soin par les deux, puis les quatre, puis les six gendarmes qui seront présents? Il faut savoir que jusqu'à six gendarmes vont être sur place avant que les pompiers n'arrivent et aucun ne va extraire Jérôme de son véhicule. Aucun ne va à ce moment-là tenter un point de compression alors qu'il se vide de son sang au niveau de la jambe puisqu'il a reçu une balle qui a atteint l'artère fémorale.
En attendant la fin d'une instruction qui patine, la famille Laronce s'engage dans une autre procédure, au niveau administratif cette fois. Car le drame s'inscrit dans un contexte signifiant. Des contrôles administratifs à répétition, en présence de militaires armés que l'agriculteur subisse abusivement depuis plusieurs années. Le 28 février 2020, le tribunal administratif de Dijon rend son jugement. Les contrôles de la DDPP sur la ferme des Senoux en 2015 et 2016 sont irréguliers et nuls pour violation du domicile et des droits d'éleveur. Ces mêmes contrôles qui ont conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel en 2016. Le rapport de force s'inverse. Jérôme Laronce, qu'on accuse d'avoir menacé des gendarmes, est avant tout un homme dont les droits ont été bafoués par une administration avec le soutien de l'autorité publique. Ce jugement est une victoire pour la famille Laronce. Mais il ne remplace pas une décision pénale qui tarde à se profiler à mesure que les années passent. 7 ans après les faits, en 2024, Marie-Pierre Laronce partage sa profonde inquiétude sur France 3.
On n'a jamais imaginé que l'instruction puisse durer cette année. Pour nous, c'était inconcevable. Et je me rappelle les propos de la procureure à l'origine de cette affaire, dans les semaines et les mois qui suivaient, qui indiquait qu'en 18 mois, 2 ans au maximum, l'instruction serait terminée et qu'on aurait une décision. Aujourd'hui, 7 ans, personne ne pouvait l'imaginer. Voilà, moi j'ai toujours dit, de toute façon, le temps joue contre nous parce que le temps efface les preuves. Et ça, c'est inacceptable. Quand on dit « je ne me souviens plus », on comprend que derrière cet oubli argumenté, c'est un embarras en fait qu'on ne veut pas montrer, des réponses qu'on ne veut pas donner.
Après 8 ans d'enquête et autant de déconvenues pour les proches de Jérôme Laronce, un avis de fin d'information est pris le 19 mai 2025. C'est désormais au juge d'instruction, le 6e sur ce dossier, de décider de renvoyer l'affaire devant un tribunal ou d'ordonner un non-lieu. La même année, la défenseure des droits, Claire Hédon, saisie par la famille Laronce et la Ligue des droits de l'homme, rend une décision institutionnelle et distincte de la voie pénale, sans force contraignante, mais à portée symbolique et morale. L'institution estime que les tirs du gendarme n'étaient ni nécessaires, ni proportionnés. Elle pointe l'absence de gestes de premier secours et relève des manquements hiérarchiques. La défenseure des droits annonce également saisir le ministre de l'Intérieur afin qu'il engage une procédure disciplinaire à l'encontre du gendarme. Pour la famille de Jérôme Laronce, qui vit depuis près de 9 ans dans la crainte d'un non-lieu, c'est un pas de plus vers la vérité et la justice. Insuffisant, certes, mais qui relance l'espoir.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Jérôme Laronze. Nos invités, elles sont deux aujourd'hui. Deux des sœurs de Jérôme Laronze. Marie-Pierre Laronze, bonjour.
Bonjour.
Avocate et Marie-Noëlle Laronze, bonjour.
Bonjour.
Éleveuse et membre de la Confédération Paysanne en Saône-et-Loire. Marie-Noëlle Laronze, je vais commencer avec vous. On a beaucoup entendu Marie-Pierre tout à l'heure. On vous redonnera la parole, évidemment. Mais d'abord, à vous, quel homme était votre frère? Que doit-on retenir de lui?
Je crois que votre récit le montre très bien. C'était quelqu'un d'indigné, c'était quelqu'un qui voulait combattre l'injustice. Et on peut dire qu'il en est mort.
C'était surtout quelqu'un de très lucide, qui s'intéressait justement à toutes les questions agricoles, qui lisait beaucoup, qui s'est un peu auto-éduqué, et qui s'est aussi auto-éduqué, je crois, au contact de sa pratique de la nature, enfin de... Voilà, il était sur une ferme, il cultivait, voilà. Et je crois que tout ça lui a donné une grande sensibilité, alliée à une capacité quand même de compréhension des choses, fait qu'il avait... c'était quelqu'un de beaucoup, très lucide et qui souffrait justement de voir où allait le monde agricole et par rapport à ce qui lui était cher.
Et l'affaire a fait l'objet de quelques reportages dans la presse nationale, notamment une longue enquête de Florence Obna dans Le Monde, une autre de Marie Astier dans Reporter, TE201 Reporter. Mais l'affaire a été assez peu médiatisée finalement à l'échelle nationale. Ça vous a surpris, Marie-Noëlle?
Oui, bien sûr, ça a pu nous surprendre. Bon, elle a été médiatisée, mais elle a été médiatisée peut-être en effet sur des médias un peu plus spécialisés, un peu plus comme Reporter, en effet, comme Society. Elle a été, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu quelques reportages aussi. Mais voilà, c'est une histoire de violence policière dans le monde rural. Et est-ce que la violence policière dans le monde rural et grand public, voilà, on peut se poser la question. Mais c'est vrai que, sans aucun doute, le drame aurait dû et aurait pu être beaucoup plus médiatisé, oui.
Où en est la procédure aujourd'hui, Marie-Pierre Laronze, précisément?
C'est difficile de vous répondre, puisque au bout de 9 ans, nous, on sait pertinemment que tous les éléments pour un renvoi sont au dossier, enfin, depuis longtemps. Aujourd'hui, donc, un avis de fin d'information. Sachant que le procureur qui doit prendre des réquisitoires, il a saisi le juge d'instruction d'une demande de reconstitution, d'une expertise permettant une reconstitution numérique tridimensionnelle. C'est une demande qu'on a présentée peu ou prou dès 2020. Donc, bien évidemment, sur le principe, c'est une demande à laquelle on adhère parce qu'elle devrait permettre justement tous ces éléments éparpillés dans le dossier, de les rassembler, de les confronter pour extraire une vérité judiciaire. Maintenant, c'est vrai que cette demande soit présentée aujourd'hui en 2026. Nous, ce qui ça nous fait craindre, c'est de reporter encore l'issue de ce dossier. Et c'est quand même une incertitude. Et derrière une incertitude, c'est aussi une grande souffrance. Parce que c'est une intranquillité permanente pour nous, pour toute la famille, pour mes parents, pour mes sœurs, mais pour les neveux et nièces qui étaient beaucoup attachés à mon frère. Mon frère avait un lien très fort avec ses neveux et nièces. C'était le grand frère. Donc tous qui sont des jeunes adultes maintenant. C'était des enfants ou des adolescents quand il est mort, qui sont des jeunes adultes. Et moi, j'ai pas envie qu'ils entrent dans le monde adulte avec un doute sur la capacité de la justice à rendre justice.
Marie-Noëlle ?
Un sentiment de vouloir enterrer l'affaire, clairement. Et plus le temps va passer, plus on ira vers un risque que justice ne soit pas rendue.
Alors, au-delà de l'affaire judiciaire, évidemment, cette histoire en dit beaucoup de choses sur l'état de l'agriculture aujourd'hui. On va revenir un peu dans les détails, justement. Quand on retire un troupeau à un éleveur, où vont les bêtes? Que deviennent-elles?
C'est la DDPP qui prend en charge le retrait, les DDPP départementales donc qui prennent en charge les retraits. Et souvent, c'est fait en collaboration avec l'OABA, qui est un organisme, qui est une association, qui est une association qui derrière les commercialise auprès de marchands de bovins.
Et celles de Jérôme, où sont-elles aujourd'hui?
Alors, celle de Jérôme, la ferme a été... Nous avons repris avec mon conjoint quelques mois après la ferme de Jérôme. Ce que je voudrais mettre en avant quand même ici, c'est que à ce moment-là, il y avait urgence de reprendre... Quand Jérôme est mort, il y avait urgence de lui retirer son troupeau. Au moment de sa mort, l'administration ne s'est plus posé la question de ce qu'allait devenir son troupeau. Il y avait à l'époque une 120 bêtes. Il n'y a eu aucun accompagnement à ce moment-là de l'administration pour nous aider à la gestion de ce troupeau. Donc le troupeau a été partiellement vendu et certains de ces animaux, certaines de ces mères vaches en l'occurrence, nous les avons gardés pour redémarrer la ferme quelques mois après.
Alors, on l'a entendu lors des manifestations de ces derniers mois, l'un des enjeux du monde agricole, c'est celui des normes, hein, l'administratif, les règlements, c'est tout l'objet de ce drame. Hein. Jérôme Laronce, bien qu'il les questionnait, n'était pas contre ces normes. Je ne pense pas. Hein. Que demandait-il et que demandez-vous et que demande la Confédération paysanne qui vous soutient ?
Non, absolument. Jérôme n'était pas du tout contre les normes et, ou toute réglementation, d'ailleurs. J'en veux pour preuve qu'il était en agriculture biologique, donc il dépendait d'un règlement européen qui encadre l'agriculture biologique. Donc lui-même, quelque part, se mettait une réglementation. Voilà. Mmh. Il n'était pas du tout contre les normes. Il était contre les normes qui sont mortifères pour l'agriculture paysanne. On est régi par quantité de normes européennes, mais aussi beaucoup de surtranspositions françaises qui font que, qui sont toujours dirigées, ou très très souvent dirigées en tout cas, sur plus de difficultés pour une petite ferme, pour un paysan et pour une agriculture fermière et familiale.
Ça veut dire que les normes administratives sont encore plus dures pour les petites exploitations de surcroît biologique pour l'agriculture intensive, c'est ça que vous me dites ?
En tout cas, elle demande beaucoup d'investissement qu'une petite ferme, un modèle familial ne peut pas suivre. Si on prend l'exemple, nous qui ne nous touche pas, parce qu'on n'a pas d'élevage de volailles, mais on entend beaucoup parler de pénurie actuellement d'œufs en France. Il y a des normes qui conduisent l'élevage volaille et l'élevage de volailles pondeuses, et en l'occurrence encore plus l'élevage plein air, qui font que tout petit élevage baisse les bras pour conduire pour développer ou augmenter un élevage de volailles plein air, parce que c'est tellement dissuasif qu'on va aller plus que sur des très gros élevages qui, eux, peuvent mettre, mais sans dette sûrement pour beaucoup d'années, mais peuvent mettre leur élevage aux normes. Et voilà, c'est tout fait. On a l'impression que tout est fait pour, en tout cas, dissuader les petits élevages.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Une question pour vous, Marie-Pierre Laronce, et pour vous, Marie-Noël Laronce. Le modèle agricole majoritaire en France est toujours porté par la FNSEA, le gros syndicat, lui-même soutenu par l'État, qui défend donc une agriculture compétitive reposant sur les exportations. Est-ce que vous souhaitez sortir de ce système ? On va commencer avec vous, Marie-Noël Laronce, et comment en sortir ?
Le modèle que l'on souhaiterait, le modèle paysan, le modèle de remettre les fermes au milieu du village, quelque part, et de revenir à des choses très, très pratiques, et surtout à revenir sur un modèle où le paysan est au cœur de sa ferme et a une activité aussi rémunératrice, parce que ce dont on ne parle pas, c'est que la douleur paysanne actuellement, c'est quand même un problème de revenus pour la plupart du temps.
C'est
aussi
le modèle économique.
Voilà,
bien sûr.
Tout à fait. Et le modèle que l'on souhaiterait revenir, c'est vraiment à une souveraineté alimentaire, et puis à en ce moment, on est dans les accords du libre-échange, par exemple, qui pour nous sont vraiment complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire, au contraire, et revenu sur une autonomie et dans nos fermes et dans notre pays sur nos questions alimentaires et agroalimentaires.
Marie-Pierre Laronce, quel est votre sentiment sur cette thématique-là ?
Oui, alors moi, il est moins de l'intérieur que ma sœur, mais néanmoins. À la suite de ce qui est arrivé à mon frère, de sa mort, moi j'ai été contactée par beaucoup de paysans ou exploitants agricoles, selon comment ils veulent se désigner, et quelle que soit finalement leur obédience syndicale. Moi ce que je pense, c'est que c'est une profession qui est mal représentée ou peu représentée. Certes, il y a un syndicat qui se dit majoritaire. Moi, je pense que c'est surtout un syndicat dominant, mais pas forcément majoritaire. Parce que si on regarde bien, lors des élections, finalement, une grosse part de la population agricole ne vote pas. Et pourquoi elle ne vote pas ? Peut-être parce que justement, ses préoccupations, pour elle, ne sont pas représentées, mal discutées. Et donc, ce syndicat qui se dit majoritaire, mais pour moi qui est plus dominant, puisque si on regarde au niveau de la population, il n'est pas majoritaire, il est majoritaire par rapport à ceux qui votent, je pense, effectivement, ne représente pas le monde agricole, qui est d'ailleurs très divers.
Mais d'autres syndicats montent, enfin, je ne sais pas à quel point ils fédèrent, mais je pense évidemment à la Confédération paysanne, hein, mais aussi à la coordination rurale. Est-ce que ces autres chemins qu'on peut prendre sont efficaces ? par rapport à la FNSEA. Quel est le poids de la coordination rurale, de la Confédération paysanne ?
Oui, on a vu en effet aux dernières élections que le poids de la coordination rurale a augmenté, au détriment de la FNSEA d'ailleurs. Et la Confédération paysanne s'est plutôt stabilisée. On veut revenir à une agriculture, c'est pas l'agriculture d'il y a 50 ans à laquelle on veut revenir, c'est une agriculture, c'est l'agriculture que souvent demandent d'ailleurs les Français, dont l'image d'Épinal dans la tête des Français. On voudrait une agriculture avec des vraies fermes, avec des fermes de polyculture élevage, chose que l'administration ne souhaite même plus, parce que il n'y a pas pire pour l'administration que d'avoir plusieurs productions dans une même ferme. Si vous faites des volailles, si vous faites des porcs, si vous faites des bovins, et imaginons que vous fassiez de la céréale, ça ne leur va pas. Ils apprécient plutôt les fermes où il n'y a qu'une seule production.
Les monocultures.
Et voilà, ou en tout cas qu'une seule production. Et voilà, nous, on voudrait vraiment revenir à une facilité de pouvoir développer une polyculture élevage, et je reviens vraiment rémunératrice, et surtout aussi qui devient indépendante et en amont et en aval de toute l'agro-industrie et de tout l'agroalimentaire.
Marie-Pierre Larronze, après la mort de Jérôme, la Confédération paysanne a souhaité se porter partie civile, hein, ce qui lui a été refusé par la justice. Pourquoi ?
Ça lui a été refusé parce que la justice a considéré que son action n'avait pas un lien direct suffisant avec la mort de mon frère.
Est-ce que la mort de votre frère a laissé une empreinte là où vous travaillez auprès des autres agriculteurs ? Est-ce qu'on en parle encore ? Est-ce que ça a été un exemple très fort, parce que dramatique, de ce qui peut se passer dans nos campagnes ?
Oui, moi je pense qu'il a laissé une empreinte très importante. Alors au niveau local, vous savez, il y a ceux qui l'ont connu, ceux qui peuvent avoir une forme peut-être de culpabilité, ou en tous les cas de remords, de ne pas peut-être avoir pouvoir aider à que cette fin tragique n'advienne. Mais moi, de façon incroyable, je vous disais, je suis contactée, parce que je suis finalement assez facilement joignable, par mail ou des fois par téléphone, par nombre de paysans sur toute la France. Je le dis bien, sur toute la France, et même de l'étranger, du Mexique, d'Argentine. Et c'est incroyable, j'en suis surprise moi-même. Ma première question est toujours, comment connaissez-vous cette histoire ? Et on me dit, mais vous ne pouvez pas savoir comment on parle encore de Jérôme Larronze et comment ça reste une image forte pour nous, quoi.
Ouais.
Donc oui, cette histoire marquera durablement le monde agricole, même si on n'en fait pas ses choux gras dans les grands médias.
Sauf ici. Voilà, cette affaire n'a pas vocation à tomber dans l'oubli, et certainement pas. Merci, mesdames.
Merci, monsieur Drouel.
Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Jérôme Larronze, et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.